bien entendu, contre l'Allemagne.
Bonjour, bienvenue dans le fil de l'histoire. Aujourd'hui, à l'occasion de la commémoration du 11 novembre, on débute une nouvelle série. Loin de Verdun, en quoi la Première Guerre mondiale fut-elle mondiale? C'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre cette semaine, du lundi au vendredi à 14h. À podcaster soit chronique après chronique, soit dans la totalité de la série, qui est aussi diffusée le dimanche à 21h. Si je vous dis Première Guerre mondiale, c'est probablement à la bataille de Verdun et à l'enfer de ses tranchées que vous pensez en premier. Normal. Cette bataille, l'unique où les Allemands et les Français seuls se sont affrontés, fut la plus longue de la Grande Guerre. Celle qui, pour nous Français, dans notre mémoire collective et familiale, symbolise le plus l'héroïque sacrifice des poilus, mais aussi l'absurdité que peut avoir la guerre. La bataille, qui avec celle des Flandres et de la Somme, est une des plus meurtrières du front de l'Ouest. Ce front qui s'étend de la mer du Nord à la frontière entre la France et la Suisse. Pourtant, loin du front de l'Ouest, la Première Guerre mondiale, comme son nom l'indique, fut mondiale. D'abord, bien sûr, par le nombre de belligérants, qui pour la première fois de l'histoire sont entrés progressivement dans le conflit. Mais mondiale aussi, parce que cette guerre, géographiquement, fut éclatée sur de multiples fronts, parfois à des milliers de kilomètres les uns des autres, dispersés sur plusieurs continents. Des fronts lointains, considérés parfois comme périphériques et dont on ne parle jamais. En Europe, on s'est battu aussi dans les Alpes, en Prusse orientale, en Russie, au Caucase, mais aussi dans l'Empire ottoman, au Moyen-Orient, en Mésopotamie, en Palestine, et même en Afrique, en Extrême-Orient et en Océanie. Qui aujourd'hui en France se souvient des Dardanelles, de Tannenberg et Broussilov sur le front russe, de Caporetto en Italie, de Romani dans le Sinaï, de Salonique en Grèce, de Tsingtao en Chine ou de Tanga en Afrique orientale? Sur tous ces théâtres d'opérations, montagnes enneigées, déserts arides, forêts équatoriales, sur les mers et sous les mers, des millions d'hommes se sont battus et sont morts du début de la guerre en août 1914 jusqu'à l'armistice de 1918 et même parfois au-delà. Des batailles dont on parle peu en France, mais qui, comme Verdun, la Marne ou la Somme, constituent des tournants historiques et des lieux de mémoire. C'est de quelques-uns de ces combats oubliés, de leurs combattants et de leurs enjeux que nous allons parler toute cette semaine. Avec vous, Michaël Bourlet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, spécialiste de la Première Guerre mondiale et auteur de La Grande Guerre hors des tranchées, publié chez Perrin.
France Inter, le fil de l'histoire, Stéphanie Duncan.
Article 1er, la mobilisation générale est décrétée.
Le 28 juin 1914 à Sarajevo, l'archiduc François Ferdinand, prince héritier de l'Empire austro-hongrois, est en visite officielle dans la capitale de la Bosnie-Herzégovine lorsqu'un certain Gavrilo Princip, jeune étudiant serbe de Bosnie et nationaliste exalté, déterminé à frapper au cœur la monarchie qui a annexé son pays 6 ans plus tôt, surgit de la foule, se jette sur la limousine qui transporte l'archiduc et son épouse et tire 2 coups de pistolet qui vont sceller le sort du couple impérial, mais aussi celui de la paix en Europe et dans le monde. Persuadé que ce sont les services secrets serbes qui ont armé l'assassin, l'Autriche-Hongrie lance un ultimatum à la Serbie. Et 5 jours plus tard, le 28 juillet, malgré des tentatives de médiation, le vieil empereur François-Joseph déclare la guerre à la Serbie. Dans la journée, les premiers combats débutent à la frontière des deux pays. La Serbie est l'allié de la Russie qui mobilise. L'engrenage de la Première Guerre mondiale est en marche. 2 grandes alliances vont s'opposer. Celle de la France, le Royaume-Uni et la Russie qui forment ensemble la Triple Entente. Et en face, les empires centraux d'Allemagne et d'Autriche-Hongrie. 2 camps auxquels se joindront bientôt d'autres pays d'Europe. Au fil des années, 22 pays seront engagés dans le conflit. Plus de 60 millions de soldats y prendront part, dont près de 10 millions trouveront la mort. 21 millions seront blessés, sans parler des près de 9 millions de morts civils.
Les hommes pour la cavalerie légère, par ici! Ceux qui veulent s'engager dans cette arme d'élite, envolez-vous! Votre pays a besoin de vous, et vos camarades aussi ont besoin de vous!
Comment se fait-il qu'un attentat à Sarajevo visant à renverser l'ordre autrichien en Bosnie-Herzégovine, donc à première vue une crise locale entre l'Autriche-Hongrie et la Serbie, comment cette crise peut-elle, par une réaction en chaîne, provoquer en quelques semaines seulement une guerre qui va devenir européenne et bientôt mondiale.
L'attentat est juste un petit événement. Il n'y a aucune raison, en 1914, pas plus que quelques années auparavant, que les pays européens se fassent la guerre. Et pourtant, cet attentat va déclencher finalement la Première Guerre mondiale et va provoquer un traumatisme comme jamais on en a vu en Europe. Alors pourquoi ? Eh bien, l'Europe en 1914, c'est un monde qui paraît uni. L'Europe domine le monde. Elle domine le monde au plan démographique, elle domine le monde au plan économique, au plan politique. Mais c'est un monde qui est prospère, mais c'est un monde aussi qui a des diversités. Une Europe pleine au nord, une Europe creuse au sud, une Europe industrielle, une Europe...
Qu'est-ce que ça veut dire pleine et creuse ?
Creuse, ça veut dire une Europe qui, en termes démographiques, est en baisse ou en difficulté, alors qu'au nord, on a une Europe industrielle, riche, prospère et... avec une densité de population très forte. Et donc, on a toutes ces différences entre l'Europe aussi libérale, l'Europe autoritaire. Mais il n'empêche que ces pays vivaient tout de même ensemble sans se faire la guerre depuis près d'un siècle. Et même si les tensions se sont accrues depuis le début du XXe siècle, tout ça explose en juillet 14. Alors, ces tensions, elles sont nombreuses. Il y a, vous l'avez dit, le système des alliances qui fait que, mécaniquement, tous ces pays vont venir aider l'autre. Voilà. Il y a les rivalités coloniales, il y a les rivalités économique qui crispe les relations entre ces pays. Ce qui est important de préciser aussi, c'est qu'en 1914, aucun pays ne veut véritablement faire la guerre avec son voisin. Mais en revanche, chaque pays pense que son voisin veut lui faire la guerre. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est déterminant dans la course vers l'abîme. Voilà. Alors, dans l'immédiat, la guerre qui se déroule, dans un premier temps, entre l'Autriche-Hongrie et la Serbie, c'est juste une guerre très localisée. Et même, je dirais même que la plupart des pays européens, quand on lit la presse, sont plutôt favorables à l'Autriche-Hongrie, qui a vu son héritier, en fait, se faire assassiner. Mais c'est le jeu des alliances qui va précipiter l'Europe dans la guerre. L'Allemagne qui dit à l'Autriche-Hongrie, qui donne carte blanche à l'Autriche-Hongrie, la Russie qui soutient les Serbes, et en fait, ensuite, on a un système d'alliance qui se met en branle. On ne peut pas dénoncer une alliance et on entre dans ce cercle dramatique.
Voilà. Et comment va-t-il y avoir 22 pays engagés dans cette guerre ?
Alors, les pays européens, déjà, entrent en guerre. Il y a des systèmes d'alliances qui s'opèrent. On parle toujours de l'Angleterre, on parle toujours de la France, mais aussi il y a d'autres pays qui sont autour. La Belgique entre en guerre. Elle n'est pas dans un camp, mais elle est attaquée. Donc, sa neutralité est violée, donc elle entre en guerre. Il y a des pays qui entrent en guerre plus tard. Le Portugal, par exemple. Et puis...
L'Empire Ottoman.
L'Empire Ottoman, qui entre en guerre plus tard.
En novembre.
On est dans un petit espace-temps de quelques semaines, quelques mois, un peu plus tard pour le Portugal. Et puis ensuite, on a tous les pays du monde, je dirais, de l'Afrique et de l'Asie, qui sont des pays colonisés, et qui, de facto, entrent en guerre lorsque le pays colonisateur entre en guerre aussi.
C'est voilà. Parce que tous ces pays donc européens sont des pays coloniaux, ce sont voilà. des puissances coloniales.
Ce sont des puissances coloniales, et les rivalités coloniales sont très importantes dans les raisons du déclenchement de la guerre. Alors, pas seulement le seul élément, mais elle joue un rôle important.
Et les États-Unis en 1917 entrent dans la guerre, tandis que les Russes en sortent.
En sortent, oui. Mais quand les États-Unis entrent en guerre en 1917, ça c'est important de le préciser, quasiment tout le continent américain entre en guerre.
Et pourquoi, Michael Bourlet, parle-t-on de fronts principaux et de fronts périphériques ? Qu'est-ce qui les distingue ?
Le front de l'Ouest, celui de France, c'est le plus important parce que c'est là où doit se jouer l'issue de la guerre. Si l'un des deux camps perd, il a perdu la guerre. Donc c'est pour ça qu'on parle de front important, de front centraux, je dirais, parce que c'est là où doit se décider la guerre. Mais il n'empêche que les fronts périphériques jouent un rôle important, parce que les Européens, pour pouvoir continuer la guerre, ont besoin d'approvisionnement. Donc les approvisionnements viennent d'outre-mer, ils ont besoin en fait de passage, le canal de Suez est un enjeu par exemple. Donc oui, on parle de fronts centraux parce que c'est là où doit se décider la guerre, elle a commencé en Europe, mais n'empêche que tout autour, eh bien, le reste du monde joue un rôle important pour que ces pays qui se battent sur les fronts centraux puissent continuer la guerre.
Oui, on va voir d'ailleurs que cette guerre qui débute dans les Balkans va terminer aussi dans les Balkans, on le verra un peu plus tard.
Oui, tout à fait, oui.
Merci Michael Bourlet. Dans le prochain épisode, nous parlerons du front de l'Est, comment l'Empire russe et sa colossale armée font face pendant 3 ans à 3 autres empires, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Empire ottoman, avant, en 1917, de devoir sortir de la guerre.